La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. Et lisons là les versets 6 et 7. Apocalypse, quel chapitre ?
14.
Quel verset ?
6 et 7.
Et 7. Et nous allons lire là ce qu'il nous est dit. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. En disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Remarquez que le troisième et le deuxième ange suivent le premier ange qui vole au milieu du ciel. Et le fait que ces anges volent à cet endroit indique la nature mondiale de leur œuvre ainsi que de leur message. Ce qui est confirmé par le fait que le premier ange annonce son message à toute nation et tribu et langue et peuple. Et quel message va-t-il annoncer de la sorte? Eh bien, le texte nous dit qu'il s'agit de l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel qu'annonce cet ange. Et voyez-vous, dans le texte grec, c'est la seule fois où éternel est associé au mot évangile en tant qu'adjectif. Et donc, c'est dire combien il est identique, cet évangile qui est prêché ici. C'est dire combien il est identique au pur évangile que Paul prêcha en Galates, chapitre 1, versets 6 et 7. Je vous invite à vous rendre avec moi en Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, versets 6 et 7. Où nous lisons « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. » Ce n'est pas une petite chose que de pervertir l'évangile. En effet, si un ange volant par le milieu du ciel annonce un évangile différent de celui prêché par Paul, eh bien, l'apôtre nous dit que cet ange doit être anathème. En effet, lisons les versets 8 et 9. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voyez-vous, le mot anathème ici signifie bannir, excommunier en fait. Autrement dit, les croyants en l'évangile éternel ne doivent pas avoir de communion avec ceux qui annoncent un évangile différent de celui prêché par Paul. Et quel était l'évangile prêché par Paul, mes amis? Remarquons Romains chapitre 1, verset 9. Où allons-nous? Romains chapitre 1, verset 9. Car Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. L'évangile prêché par Paul, mes amis, était l'évangile du Fils de Dieu. Et en fait, l'évangile prêché par Paul est celui qu'ont prêché les apôtres qui ont vécu 3 ans et demi avec Jésus-Christ, d'après ce que nous lisons en Marc, chapitre 1 et au verset 1. Marc, chapitre 1 et au verset 1, où nous lisons « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Dans quelques instants, nous allons considérer le verset 7, qui est en fait le contenu de l'évangile éternel annoncé par l'ange. Mais avec ce que nous avons lu jusqu'ici, nous pouvons être sûrs que les prédicateurs qui apportent, qui enseignent un Jésus autre que le Fils de Dieu, eh bien, sont anathèmes, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul. Car l'évangile éternel est l'évangile du Fils de Dieu, mes amis. Il ne s'agit pas de l'évangile de la seconde personne de la Trinité ou de je ne sais quel autre type de Jésus qui a été fabriqué dans les écoles de théologie. Non. Il s'agit de l'évangile du Fils de Dieu, mes amis. Et c'est cet évangile que le premier ange annonce d'une voix forte. La voix forte de l'ange ne signifie pas que ceux qu'il représente prêchent ce message en criant, mais qu'ils annoncent sans timidité aux hommes qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu en paix. Et c'est ce que nous comprenons lorsque nous considérons Ésaïe 58, verset 1. Où allons-nous? Ésaïe 58, verset 1. Et là, il nous est dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob, ses péchés. Notez ici que crier implique le fait d'avoir à dénoncer le péché, mes amis. Et afin de pallier à ce problème, l'ange demande de craindre Dieu. Craindre Dieu signifie le considérer avec respect et révérence, ce qui véhicule la pensée d'une loyauté absolue envers Dieu et d'un abandon total vis-à-vis de sa volonté. Et de quelle volonté? De quelle volonté s'agit-il ici? Remarquons ce qu'il est dit en Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Voyons-nous. Deutéronome 4, verset 10. Et là, nous lisons, « N'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, en Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, « Assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent, tout du moins, à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. » Horeb était le nom de la chaîne de montagnes dont le mont Sinaï était le sommet. Et c'est sous le mont Sinaï, à cet endroit, que Dieu révéla sa volonté aux enfants d'Israël. Là, Dieu écrivit de son propre doigt sur des tables de pierre les 10 paroles de l'Alliance éternelle, sa loi. Il est donc logique que l'ange appelle le monde à craindre Dieu d'une voix forte, étant donné que 1 Jean 3, verset 4 nous dit que le péché est la transgression de la loi. Et lorsque vous savez que les 2 premiers commandements de cette alliance portent sur l'adoration, eh bien, vous comprenez pourquoi le premier ange dit plus loin d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. En d'autres termes, le Créateur. Le message du premier ange est donc un appel à abandonner le culte des idoles matérielles, mais aussi spirituelles, afin de revenir au culte du Dieu créateur. Puis, il continue en disant de donner gloire à Dieu. Afin de pouvoir donner gloire à Dieu, nous devons au préalable savoir ce qu'est cette gloire, n'est-ce pas? En Exode chapitre 32, alors que les enfants d'Israël étaient en train de s'adonner à l'idolâtrie avec le veau d'or, Moïse était en présence de Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et après cette première ascension du mont Sinaï, Moïse avait simplement reçu la lettre de la loi. Et voyez-vous, cela n'avait pas entraîné de changement sur son visage. Mais après sa deuxième ascension du mont Sinaï, l'expérience de Moïse fut différente d'après ce que nous lisons en Exode 34, versets 29 à 30. Où allons-nous? C'est exact. Exode 34, versets 29 et 30, excusez-moi. Et là, remarquons ce qui se produisit après sa deuxième ascension. Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les deux tables du témoignage étant dans la main de Moïse, qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent d'approcher de lui. Que s'est-il passé sur le mont Sinaï cette fois-ci? Pourquoi le visage de Moïse était-il rayonnant? C'est parce qu'avant sa seconde ascension, Moïse demanda à Dieu quelque chose de spécial. En effet, en Exode 33, verset 18, et Moïse dit, « Je te prie, en parlant à Dieu, fais-moi voir ta gloire. » Et notez quelle fut la réponse de l'Éternel au verset suivant. Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Remarquez maintenant comment l'Éternel exauça Moïse en Exode 34 et au verset 6 et 7. Exode 34, verset 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Après sa deuxième ascension du mont Sinaï, Moïse reçut la révélation de la gloire, c'est-à-dire du caractère de Dieu. Or, cette révélation n'est possible que par la réception de l'Esprit de celui qui promulga la loi depuis le mont Sinaï, c'est-à-dire de Christ. En effet, remarquons ce que l'apôtre Paul déclare en 2 Corinthiens 3, verset 18, verset 13 à 18, excusez-moi. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. Où nous lisons, « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. » Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Ainsi, Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. La Bible nous dit que Christ est l'image de Dieu. Ainsi, donner gloire à Dieu de manière large implique le fait de laisser Christ, par son esprit, imprimer en nous son image, c'est-à-dire son divin caractère. Et cette transformation opérée par Christ, eh bien, cela est une œuvre progressive. Car c'est au fur et à mesure que nous recevons et assimilons le caractère du Christ que nous reflèterons un caractère toujours plus semblable au sien. Et voilà comment, mes amis, l'esprit de Christ nous met en liberté et que nous pouvons comprendre les paroles de Jésus en Jean 8, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et tel est l'évangile du Fils de Dieu, mes amis. Ce n'est que si le Fils nous affranchit que nous serons réellement libres. Et lorsque nous souhaitons réellement permettre à l'Esprit de nous mettre en liberté en imprimant en nous le divin caractère du Christ, nous devons alors respecter le temple dans lequel il doit œuvrer, c'est-à-dire notre corps. Remarquez, et remarquons cela en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Où allons-nous? Corinthiens 6, versets 19 et 20. Combien d'entre nous ce matin ont une Bible ouverte? Je n'affiche pas les textes, mes amis. C'est très rare que j'affiche des textes. C'est parce qu'il nous faut pouvoir prendre la parole de Dieu et lire pour nous-mêmes. Quand j'affiche les textes, c'est parce que il y a beaucoup d'informations, mais le plus souvent, je prends la peine de prendre les textes. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ainsi, d'après l'apôtre Paul, la manière dont nous traitons notre corps déterminera si oui ou non nous donnons gloire à Dieu. Et c'est pour cela qu'il alla plus loin en 1 Corinthiens 10, verset 31, 1 Corinthiens 10, verset 31, en disant, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voyez-vous, je ne pense pas que toutes celles et ceux qui mangent et qui boivent correctement glorifient Dieu de manière générale. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que toutes celles et ceux qui glorifient Dieu de manière large mangent et boivent des choses qui sont de nature à édifier et non pas à détruire leur corps que Dieu a créé. Et voyez-vous, nous avons parlé de craindre Dieu, ce qui signifie d'observer sa loi. Lorsque nous plongeons nos regards dans la loi de Dieu et que nous considérons l'esprit de la loi, notamment sur ce point ici, dans le sixième commandement, qui nous dit « Tu ne tueras point ». Ce commandement interdit le meurtre, c'est-à-dire l'homicide en fait, en réalité. Et lorsqu'on parle d'homicide, il y a deux types d'homicides principaux. Il y a un individu qui va ôter la vie d'un autre individu, mais aussi un individu qui va s'ôter lui-même la vie en fait. Donc, en résumé, le suicide est un homicide tout autant que le meurtre, d'accord? Maintenant, lorsque nous parlons de suicide, généralement, nous pensons à quelqu'un qui va utiliser un outil pour sauter la vie, en fait. Et nous avons toutes sortes d'images qui nous viendraient à l'esprit. Toutes sortes, des gens pourraient utiliser des cordes, des revolvers, pour sauter la vie. Et tout de suite, c'est le genre d'image qui est associé au suicide de nos jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Mais est-ce que vous savez que nous pouvons nous suicider, mes amis, en mangeant et en buvant? La manière dont nous traitons notre corps, est-ce que vous savez que cela peut constituer un suicide? Est-ce que vous savez qu'on peut creuser sa tombe avec sa fourchette et son couteau? Le traitement que nous réservons à notre corps, que nous apportons à notre corps, en fait, eh bien, cela détermine si, oui ou non, nous respectons le sixième commandement. Et voyez-vous, les transgressions des lois physiques sont péchés tout autant que les transgressions des lois morales inscrites dans les 10 commandements. Autrement, Jésus n'aurait pas dit en Jean 5, verset 14, « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus. » Donc, c'est bien que transgresser les lois physiques, eh bien, ne donne pas gloire à Dieu. Donc, en résumé, le message du premier ange est un appel à la restauration morale, mais aussi physique. Donc, à une obéissance des lois morales, mais aussi des lois physiques, mes amis. Et la raison pour laquelle tout être humain est appelé à craindre Dieu et à lui donner gloire est que l'heure de son jugement est venue. Ce jugement, comme nous l'avons dit lorsque nous avons établi le cadre prophétique des messages des trois anges, ne peut pas être le jugement exécutif qui, lui, aura lieu lors de la seconde venue du Christ, où chacun, eh bien, recevra selon ce que leurs œuvres auront été. Non, il ne peut pas être ce jugement. Car le message des trois anges précède la seconde venue du Christ, d'après Apocalypse 14, verset 14, où nous voyons eh bien, le Fils de l'homme qui est sous les nuées des cieux pour la moisson. Et d'après Matthieu 13, nous savons, Matthieu 13, 39, Jésus nous dit que la moisson, c'est la fin du monde. D'accord? Et de plus, le message concernant le jugement est accompagné d'un appel à craindre Dieu et à lui donner gloire, ainsi que d'un avertissement à ne pas recevoir sa marque, ce qui indique clairement que le salut est encore accessible, car les hommes peuvent toujours se tourner vers Dieu et échapper à la colère à venir. Donc, il s'agit bel et bien d'un jugement investigatif que nous allons, dans quelques instants, détailler. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter quelque chose d'assez intéressant qui nous permet eh bien, de renforcer ce que nous avons vu la fois précédente concernant la manière de savoir qu'il s'agit ici bel et bien d'un jugement investigatif et surtout la manière de lier Apocalypse, le jugement mentionné en Apocalypse 14 avec celui de Daniel chapitre 7. Rendons-nous en Daniel 7 et j'aimerais vous montrer quelque chose là. Où allons-nous? Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît, en Daniel 7. Parce que là, si vous n'avez pas vos Bibles ouvertes, vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais vous dire. Et nous allons juste esquisser. Parce que je pense que nous avons déjà au moins une fois lu ce chapitre et peut-être nous l'avons certainement déjà étudié. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, il y aura un résumé à la fin. Mais suivez avec moi, que vous pourrez noter, qui sera bien évidemment présent dans l'enregistrement vidéo. Remarquez que du verset 2 jusqu'au verset 8 de Daniel chapitre 7, nous avons là eh bien, un aperçu historique des empires mondiaux, suivi du pouvoir de la petite corne. Et là, nous sommes sur terre. C'est une vision de choses qui se passent sur terre. D'accord? Daniel 7, versets 2 à 8. Maintenant, les versets 9 et 10, eh bien, nous avons là une scène de jugement qui a lieu au ciel. Donc, du verset 2 au verset 8, cette vision présente des choses qui ont lieu sur terre. Les versets 9 et 10 nous présentent quelque chose, une vision, une scène qui a lieu au ciel. Et remarquez les versets 11 et 12. Là, eh bien, on a la poursuite de l'action de la petite corne ainsi que sa destinée. D'accord? Et là, on est de retour sur terre. Et à nouveau, les versets 13 et 14, nous allons revenir au ciel, d'accord, où il y aura là, eh bien, une présentation de la scène du retour du Christ, mais pour le jugement. C'est-à-dire, Christ se déplace pour aller vers l'ancien des jours, pour le jugement qui était présenté au verset 9 et 10. Donc, nous avons là un enchaînement de visions sur la terre, au ciel, sur la terre, au ciel. Okay? Il y a là un mouvement, en fait, entre ciel et terre qui est alterné, en fait. D'accord? Et voyez-vous, il y a un parallèle. Il y a un parallèle des mouvements ciel, entre ciel et terre, en Daniel 7 et Apocalypse 13 et 14. D'accord? Apocalypse 13, le chapitre, nous présente, ce chapitre nous présente, eh bien, les choses qui se déroulent sur terre. Apocalypse 14, versets 1 à 5, là où est-ce qu'on nous parle des 144 000 qui sont sous la montagne de Sion avec l'agneau, eh bien, cela, tout comme Daniel 7, 9 et 10, se passe au ciel. D'accord? Ensuite, Apocalypse 14, versets 6 à 13, les messages des trois anges, nous sommes, comme Daniel 7, versets 11 et 12, sur terre à nouveau. Et ensuite, Apocalypse 14, versets 14 à 20, comme Daniel 7, versets 13 et 14, nous revenons à nouveau au ciel. Donc, il y a là un parallèle, il y a là des mouvements entre ciel et terre qui sont parallèles en fait, en Daniel 7 et Apocalypse 13 et 14. Donc, Apocalypse 13 et 14, en fait, présente une vision, je dirais, étendue de ce qui se passe en Apocalypse 7, en fait. D'accord? Et nous savons que l'étude de Daniel ne peut pas se faire sans l'Apocalypse et vice-versa, en fait. Donc, il y a là quelque chose qui est notoire. Et l'implication de ces mouvements parallèles en Daniel 7 et Apocalypse 13 et 14 est claire. Cette implication est très claire. C'est que le jugement annoncé par le premier ange se réfère directement à la scène du jugement céleste de Daniel 7. Et cet ange annonce aux habitants de la terre que le jugement dernier a commencé au ciel. Vous comprenez? Le premier ange d'Apocalypse 14 annonce aux habitants de la terre que le jugement a commencé au ciel. Et notez pour quelle raison le Fils de l'homme, Jésus, se rendit vers l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu son Père, en Daniel 7, verset 10. Il nous a dit, un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. D'après ces versets, lorsque Jésus se rendit vers son père le 22 octobre 1844, comme nous l'avons déjà établi lors de la présentation précédente, eh bien, lorsqu'il se rendit vers son père dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, ce fut pour un jugement qui devait avoir lieu, qui devait se dérouler sur la base de ce qui est écrit dans des livres. Et lorsque Jean nous décrit la même scène en Apocalypse 20, verset 12, Apocalypse 20, verset 12, il nous dit « Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. » Il y a des livres, et nous allons passer quelques instants à clarifier ce que sont ces livres. En Philippiens 4, verset 3, l'apôtre Paul déclare « Je te prie aussi, fidèle collègue, sois leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, dès que les noms sont écrits dans le livre de vie. » Le livre de vie contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Et vous pouvez également voir les autres textes qui nous parlent de ce livre en Daniel 12, verset 1, Luc 10, 20, Apocalypse 20, 12 que nous avons pris tout à l'heure et Apocalypse 21, verset 27. Nous avons là le premier livre, le livre de vie, qui contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur. Mais il y a un autre livre, d'après le prophète Malachi. Malachi 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. » Et on se réfère à cet ouvrage, à ce livre, également en Néhémie 13, verset 14, et en Psaume 56, verset 8. Ce livre, qui est le livre de mémoire ou du souvenir, est un récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et bien entendu, les paroles inutiles et les mauvaises actions sont également enregistrées dans un livre, d'après ce que nous lisons en Ecclésiaste 12, verset 14. « Car Dieu fera venir tout œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, mais aussi soit mal. » D'accord? Et nous pouvons également comparer ce texte-là avec Ésaïe 65, versets 6 et 7, Matthieu 12, versets 36 et 37, et 1 Corinthiens 4, verset 5. Ainsi, l'œuvre du jugement dans laquelle Jésus est impliqué avec son Père depuis le 22 octobre 1844 est bel et bien une œuvre de jugement investigatif qui ne concerne que le peuple de Dieu, d'après ce que l'apôtre Pierre nous dit, et même qui commencera par le peuple de Dieu, par la maison de Dieu, le jugement de manière générale. Il dit, « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Et cela se comprend, car voyez-vous, ceux qui étaient concernés par l'œuvre d'expiation qui avait lieu lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'était le peuple d'Israël en fait. Les autres nations n'étaient pas concernées. Donc, c'est le peuple de Dieu en fait qui sera concerné et s'il veut bénéficier, qui est concerné par ce jugement tout du moins, et qui bénéficiera en fait de cette œuvre de jugement. Et parmi tous ceux qui auront professé la foi, seuls ceux qui seront venus à Dieu par la confession et la repentance, et dont les consciences ici-bas auront été purifiées des œuvres mortes, verront leurs péchés effacés des registres célestes. Et ça, il faut bien le comprendre, chers amis, car il ne s'agit pas simplement d'effacer les péchés du ciel, et puis nous, sur terre, il n'y a rien qui se passe. Non. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit lorsque l'on lit en Hébreux 9, verset... Hébreux 9, verset 14. Remarquez, il nous dit ici, et il nous parle... Nous sommes dans un chapitre, dans un contexte où on nous parle du sanctuaire. Okay? Donc là, c'est l'application okay, de ce qui se faisait dans le sanctuaire terrestre. Il nous dit « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Donc, l'œuvre qui a lieu dans le ciel doit avoir sa contrepartie sur terre. L'œuvre qui a lieu dans le sanctuaire céleste doit avoir sa contrepartie dans le sanctuaire, dans le temple terrestre de notre âme, mes amis. Et du point de vue historique, la prédication de William Miller et de ses associés qui eut lieu entre 1831 et 1844, et ce concernant la fin des 2300 jours devant avoir lieu en 1844, eh bien, cela peut être considéré comme marquant le début du message du premier ange. Mais ce message continuera à être valable jusqu'à la fin du temps de grâce, parce que en Matthieu 24, verset 14, Jésus dit quoi? Il dit, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire cet évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Remarquez ce que Jésus dit. C'est exactement ce que le premier ange fait, en fait. Donc, lorsque Jésus dit cela, en fait, le premier ange d'Apocalypse 14 annonce cet évangile du royaume dont Jésus parlait en Matthieu 24, verset 14, en fait. Ça veut dire que ce message nous amène, nous introduit dans le temps de la fin, d'accord? Et qui et lui sera lui-même clôturé par la fin des temps. Et j'aimerais passer quelques instants, d'accord? Parce que nous avons parlé du jugement investigatif, du jugement des morts. Mais j'aimerais passer quelques instants à considérer le jugement des vivants. Car, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup d'adventistes pensent que le jugement des vivants a déjà commencé, d'accord? Et il y a des ministères en France, par exemple, tels que le Grand Cri, ou vous avez aux États-Unis des prédicateurs tels que M. Parminder, aux États-Unis, M. Pippenger, et en Angleterre, si je ne me trompe pas, M. Parminder et tous leurs associés, qui disent que cela aurait même commencé en septembre 2001, d'accord, avec la chute des tours jumelles. Mais est-ce que cela est possible, mes amis, que le jugement des vivants ait déjà commencé? Remarquez une chose, c'est que le message du troisième ange nous met en garde contre la réception de la marque de la bête, d'accord, notamment. Or, cette marque de la bête sera imposée par son image, par l'image de la bête. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 13, versets 15 et 16. Apocalypse 13, versets 15 et 16. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front.
Par conséquent, le peuple de Dieu sera testé une fois que l'image de la bête sera formée, mes amis. D'accord? Et j'aimerais que nous considérions cette déclaration de l'inspiration. Dans Message choisi, volume 1, à la page 92 et au paragraphe 1, Ellen White déclara: « Le Seigneur m'a montré de manière ambiguë? Non. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. » Lorsqu'elle dit « et dont dépendra la destinée éternelle de chacun », n'est-ce pas là le résultat d'un jugement? Oui, oui. Mes amis, notez la chose suivante. C'est que l'épreuve du peuple de Dieu est l'image de la bête. C'est ce que dit l'esprit de prophétie? Oui, d'accord. Or, l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. D'accord? Donc, comment pouvons-nous croire que le jugement des vivants peut commencer avant la formation de l'image de la bête? Car il y a le test, mes amis. Comment Dieu peut-il juger son peuple vivant sur terre alors que le test n'est pas encore arrivé? Vous comprenez cela? Est-ce que cela a du sens pour vous? Dans la lettre 11 de 1890 par le paragraphe 12, et vous pouvez comparer aussi avec dans l'ouvrage de Méditation Maranatha, en date du 5 juin, Ellen White déclare, toujours concernant le même point, okay, de l'image de la bête, elle dit: tel est le test que le peuple de Dieu doit passer avant qu'il ne soit scellé. Tous ceux qui prouveront leur loyauté à Dieu en observant sa loi et en refusant d'accepter un faux sabbat se rangeront sous la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui abandonneront la vérité d'origine céleste et qui accepteront le sabbat du dimanche recevront la marque de la bête. Donc, il ne fait aucun doute que le test a bien lieu avant, mes amis. OK? Le test a lieu avant. Et on ne peut pas arriver à la conclusion de manière logique, en respectant ce que la Bible nous dit et ce que l'esprit de prophétie, ce que Ellen White a reçu comme révélation. On ne peut pas arriver à cette conclusion-là, mes amis. Et voyez-vous, il y a quelque chose que nous devons réaliser. C'est que ce que nous venons de dire ici, là, à l'instant, eh bien, c'est ce que croyaient les pionniers adventistes du septième jour. C'est ce que croyaient, mes amis, et c'est ce qu'enseignaient de manière unanime les pionniers de l'Église adventiste du septième jour. En effet, dans le point 21 des principes fondamentaux des adventistes du septième jour de 1889, nous lisons que le temps de la purification du sanctuaire est le temps du jugement investigatif se référant d'abord aux morts, puis aux vivants, lorsqu'arrive la fin du temps de probation, pour déterminer qui, d'entre les myriades dormants, à présent, dans la poussière de la terre, sera digne d'avoir part à la première résurrection et qui, parmi les multitudes de vivants, seront dignes d'être transmués, point qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Remarque à nouveau la phrase, je vous la ressouligne. Puis, donc le jugement passe aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation, mes amis. Lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Comment comment pouvons-nous dire que nous sommes de véritables adventistes du septième jour ou le penser si on n'est même pas en accord avec les lumières que Dieu a révélées en fait? Et d'ailleurs, dans le point 9 de ces mêmes principes fondamentaux, il est dit que les 2300 jours de Daniel 8-14 est la plus longue période. Remarquez cela. Que, point numéro 9, il croit que l'erreur des adventistes en 1844 concernait la nature de l'événement devant alors se produire, et non le temps, qu'aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement, mais que la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8-14, se termina en 1844 et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. Maintenant, il se pourrait, et là je m'adresse aux adventistes, il se pourrait que nous ayons la pensée, que nous pensions que oui, mais je crois en l'esprit de prophétie, je crois dans le don de prophétie et je pense être véritablement un adventiste historique, un adventiste véritable, d'accord, donc qui a une foi qui est approuvée de Dieu pour ce temps-ci. Mes amis, je dois vous dire quelque chose. Si on n'est pas d'accord avec ces principes fondamentaux-là, permettez-moi de vous dire que on ne peut pas légitimement dire qu'on est un adventiste historique, un véritable adventiste. Et je vais vous dire pourquoi. Et en réalité, c'est la messagère qui vous dira pourquoi. Remarquez, dans Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3, en 1905, elle déclara ça en 1905. Elle dit « Nous, dit-elle, hein, nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. » En 1905, dites-moi, quel est le peuple sur terre qui observe les commandements de Dieu? Ben, la réponse, on l'aura plus tard. Parce qu'on pourrait ne pas savoir c'est qui. Elle dit, pendant les 50 dernières années, à savoir de 1855 à 1905, d'accord. Et d'ailleurs, au passage, notez que 1889 se trouve dans cette période, n'est-ce pas? OK, d'accord. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du septième jour. Ah, donc, de 1855 à 1905, le peuple qui observe les commandements de Dieu, d'après ce que l'inspiration dit, sont les adventistes du septième jour, n'est-ce pas? Alors, je vais insister pour que ça puisse bien marquer les esprits pour ceux qui n'auraient pas compris ce que cela veut dire. De 1855 à 1905, le peuple qui sur terre observe les commandements de Dieu sont les adventistes du septième jour. Et c'est ce « nous-là » duquel elle fait partie. D'accord? OK. Elle n'est pas à l'extérieur. Hein? OK. D'accord. Et elle dit... Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du sixième jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par point. Donc, des vérités qui ont été obtenues point par point. Là, elle parle de vérités qui ont été obtenues point par point de 1855 à 1905. Par quel peuple? Le peuple adventiste du sixième jour. OK. De quelle manière? Par l'étude et la prière, est confirmée par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il, donc c'est toujours, là elle parle de Dieu, remarquez ça, il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi. À quoi? À quoi? Au principe fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Faisons une synthèse ici. Elle parle ici que nous devons nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi, non pas à question on doctrine, mes amis, non pas à ce que croient les adventistes, la version révisée de 2005, aux principes fondamentaux des adventistes du septième jour, qui de 1855 à 1905 ont reçu des vérités point par point qui y ont été confirmées. C'est pour cela, mes amis, que les adventistes qui rejettent les principes fondamentaux qui ont soutenu notre œuvre de 1855 à 1905, notamment tels qu'ils sont exprimés dans les principes fondamentaux de 1872, mais aussi de 1889, principes qui sont restés en vigueur 15 ans après la mort d'Ellen White. Lorsque nous rejetons ça, mes amis, on ne peut pas prétendre une seule seconde être un adventiste historique. Une seule seconde. Une seule seconde. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose ici. C'est que lorsque nous demandons le baptême, vous avez vu comment nous procédons. Nous donnons aux candidats les principes fondamentaux de 1889. Et nous demandons aux candidats, et nous conduisons le candidat dans l'étude de ces principes-là, mes amis. D'accord? Je dois dire quelque chose ici, mes amis. Il n'y a pas de rapport possible, en fait, entre ceux qui prêchent, d'accord, que le jugement des vivants a déjà commencé, les 2520, etc., et tous les décalages, les visions décalées que nous avons pu exposer durant les semaines et les mois précédents, avec le peuple adventiste historique, mes amis. D'accord? Et je prends la peine de préciser cela parce que je sais qu'il y a certains, dans d'autres ministères, lorsqu'ils baptisent les gens, on leur demande de croire, est-ce qu'ils croient dans les 2520, je crois. Alors que, mes amis, dans les principes fondamentaux de nos pionniers, cela n'en fait pas partie, mes amis. En fait, c'est véritablement un autre mouvement, en fait. Il y a des ministères indépendants, lorsque vous rentrez dedans, vous êtes tout aussi à l'ouest que dans la dénomination, en fait. Mais d'une autre manière, en fait, d'une manière différente. Je vous m'excuse d'avoir insisté là-dessus, mais il fallait que j'insiste là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos frères et sœurs, que ce soit ici en France, et même aux Antilles, mes amis, et j'en ai rencontré, qui sont troublés par rapport à ces choses-là, et qui pensent qu'il y a un accord possible, qu'on peut aller piocher, aller chez lui, on prend notre panier, et puis on va faire nos courses, on va prendre les prophéties chez lui, on va prendre la vérité sur Dieu ici, on va prendre ceci, la justification par la foi par ici, et puis on fait les courses, et puis on prend. Mes amis, Dieu nous a dit où est-ce que nous devons faire nos courses, mes amis. Il nous a donné une plateforme sur laquelle nous devons faire nos courses, où il nous faut piocher nos affaires, mes amis. C'est dans les principes fondamentaux qui nous ont été donnés et confirmés, mes amis. Et à la lumière de ce que nous lisons dans le chapitre Les faux bergers dans Premiers Écrits, je ne pense pas qu'il soit une chose sage de faire nos courses, dans les différentes boutiques qui s'ouvrent et qui rejettent unanimement ces principes fondamentaux, mes amis. Je ne pense pas qu'il soit sage de le faire. Puis Dieu nous éclairer, si ce n'est pas le cas. Et cet ange nous demande aussi d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. En d'autres termes, le Créateur. Le Créateur de l'univers est le seul et unique objet d'adoration. Aucun homme ni aucun ange n'est digne d'adoration. Cela est uniquement la prérogative du Dieu Créateur. Et d'après Jérémie, chapitre 10, versets 11 et 12, Jérémie, chapitre 10, versets 11 et 12, La faculté de créer est ce qui distingue le vrai Dieu des fausses divinités. Je vous invite à vous rendre avec moi rapidement en Jérémie, chapitre 10, versets 11 et 12, alors que nous entamons la dernière partie de cette présentation. Jérémie, chapitre 10, versets 11 et 12, où nous lisons « Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre, de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. » Ainsi, l'appel à adorer Dieu en tant que créateur est devenu particulièrement opportun dans les années qui ont suivi la prédication initiale du message du premier ange. Et rappelez-vous que cela a eu lieu entre 1831 et 1844. Car à cette époque-là, Charles Darwin a publié, eh bien, ses idées concernant la théorie de l'évolution. Donc, il est devenu opportun, d'accord, que ce message arrive à ce moment-là, puisque le monde était en train d'être submergé par une pensée qui, en fait, eh bien, enlève le Dieu créateur de l'esprit de l'homme. De plus, l'appel à adorer Dieu en tant que créateur implique le fait de tenir compte du signe ou du sceau de sa création, à savoir le sabbat du septième jour, le sabbat de l'Éternel, qui nous est mentionné dans le quatrième commandement, qui se trouve en Exode 20, du verset 8 à 11. Et un sceau, pour rappel, contient au minimum trois éléments. Quels sont-ils? Le nom du législateur, son titre, ainsi que son domaine. Et nous trouvons ces trois éléments-là dans le quatrième commandement. Nous avons l'Éternel, ok. Nous avons son titre, qui est celui de créateur, et son domaine, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ainsi, si le sabbat avait été observé comme Dieu voulait qu'il le soit, il y aurait... Ce dernier aurait alors constitué une excellente protection contre l'infidélité. Remarquez ce que l'apôtre Paul déclare à ce sujet d'ailleurs. En Actes 14, verset 15. Voyons-nous. Actes 14, verset 15. Et disant, ô homme, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que nous, que vous, tout du moins. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Donc, ces caractéristiques-là, nous les retrouvons dans le sabbat. Et donc, si le sabbat avait été observé comme Dieu voulait qu'il le soit, il aurait alors constitué une excellente protection contre l'infidélité. Et voyez-vous, la seule manière pour l'homme de s'engager dans la véritable adoration est de diriger ses pensées vers celui qui est plus grand que lui, et c'est-à-dire vers son Créateur. Et à ce propos, en Genèse chapitre 1, verset 26, alors qu'on nous parle de la création, à un moment, le texte nous présente, ok, comme une genre de coupure. Et on voit ce qui se passe à l'intérieur, ok, au niveau, eh bien, de celui qui est l'auteur de la création. Et là, on lit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sous la terre. Donc, là, nous apprenons, par ce verset, qu'en fait, il n'y a pas qu'un être impliqué dans la création. D'accord? Mais alors, qui est celui qui a dit « faisons l'homme à notre image » et à qui l'a-t-il dit? Parce que cela est important, puisqu'on nous demande d'adorer le Créateur. Donc, qui est associé au sabbat, mes amis? Très exactement. Lorsque nous lisons Proverbe 8, versets 22 à 30, on nous dit que l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi afin que ses eaux n'enfranchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière, j'étais sa délice de tous les jours et je me réjouissais sans cesse en sa présence. On nous parle ici de la sagesse. C'est la sagesse en réalité qui parle ici. Et d'après 1 Corinthiens 1, versets 24 et 30, la sagesse, c'est Christ, mes amis. Un deuxième texte, Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Là, on a deux êtres qui nous sont présentés. Et le fait qu'il ait dit, il nous ait parlé de son fils, implique qu'il y a un père. Deux êtres, le père et le fils. Un troisième texte, Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notez que le mot « par » indique eh bien, le canal par lequel cela a été fait. Or, ce canal nous est présenté comme étant la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc là, nous avons Dieu et la parole. J'ai Dieu et son Fils, le Père et le Fils. Le quatrième texte, 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Là encore, on a la source et le canal de toutes choses, donc de la création. Nous sommes à quel texte là? Cinquième texte, c'est ça? Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Par qui? Par Jésus-Christ. Colossiens 1, versets 15 et 16. C'est lui, donc Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Là encore, on nous indique Christ comme étant le canal à travers lequel toutes choses ont été créées. Et nous avons le septième texte, Hébreux 1, verset 1 et 2. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, qui est le canal de la création ici? Jésus, son Fils. C'est par lui que le Père a créé toutes choses. Et le huitième texte, Hébreux 1, versets 8 à 10. Mais quant au Fils, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà ce que le Père dit au Fils, mes amis. D'accord? Donc, il y a plus que sept textes. Il y a en réalité huit textes, d'accord, dans la Bible, dans les Écritures, qui nous montrent, eh bien, qui nous permettent de dire que Dieu a créé toutes choses par Jésus, son Fils. Mes amis, un homme ne s'élève pas plus haut que l'objet de son adoration. Si nous cherchons Dieu à travers des compréhensions d'origine humaine, nous aurons alors une connaissance de Dieu qui sera imparfaite. C'est pour cela que dans le deuxième commandement, l'auteur du Décalogue refuse d'être adoré à travers des images ou des représentations faites par la main de l'homme. Et le commandement proscrit l'adoration d'images ou de représentations faites par la main de l'homme. En effet, en édictant le deuxième commandement, il souhaite nous faire comprendre qu'il est le seul capable de communiquer une représentation parfaite de sa personne. Or, Christ est la seule image que Dieu approuva de sa personne. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Mes amis, Jésus-Christ est la seule image légitime de Dieu, la seule image qui reflète fidèlement Dieu dans son caractère, si bien qu'il pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père, en Jean 14, verset 9. Or, le premier ange place l'adoration de Dieu en opposition avec l'adoration de la bête et celle de son image. Et il n'y a que deux camps possibles. Le camp de la bête, où on adore la bête et son image, et où on reçoit la marque de la bête, ou le camp des saints, où on adore, où il y a l'adoration de Dieu et de son image, de Jésus, et où on reçoit le sceau de Dieu. Rappelez-vous tout à l'heure que Ellen White a dit dans Message choisi, vous vous rappelez ce qu'elle a dit tout à l'heure? Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Et elle dit ça de 1855 à 1905. Nous sommes, elle ne dit pas « j'observe les commandements de Dieu », ce qui implique le premier et le deuxième commandement. Elle dit « nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu ». Remarquez qu'elle ne parle pas que du sabbat ici, hein. Elle dit « les commandements de Dieu ». Alors, expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui disent « Ah non, Ellen White, elle avait reçu la véritable compréhension de Dieu, qu'est la Trinité, mais les autres pionniers adventistes ne l'avaient pas reçue. » Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Mes amis, dites ça aux gens lorsqu'ils vont vous convoquer, lorsque vous allez convoquer devant le comité d'église, ok? Et qu'on va vous dire ce genre de choses-là. Dites aux gens, non. Prenez les principes fondamentaux de 89 et dites aux gens, non, c'est nous là, c'est ça qui observe les commandements de Dieu. C'est à ce peuple-là, sur la base de cette adoration-là, qu'elle disait, nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle disait, nous avons la vérité. Il n'y a que deux camps possibles, mes amis. Et voyez-vous, tout comme les trois jeunes Hébreux dans la plaine de Dura, les habitants de la terre seront bientôt appelés à faire leur choix entre le culte du vrai Dieu et celui des faux dieux. Le message du premier ange est donc conçu pour préparer les hommes à faire le bon choix et à rester fermes en temps de crise. Quel sera notre choix, mes amis? Comment nous positionnerons-nous durant le temps de crise qui est sur le point de fondre sur nous? Notre réponse sera déterminée par notre acceptation ou notre rejet du message du premier ange. Alors, puissions-nous apprendre à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et puissions-nous adorer le Créateur, celui qui a créé toutes choses, par Jésus-Christ, son Fils, lequel, par son Esprit, nous permet de refléter la gloire de Dieu, son caractère. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.